Merci. Moi, ça vient me chercher les chants avec. Je ne sais pas comment on appelle ça, là. Comment on appelle ça, cette affaire-là? Pardon?
Violoncelle.
Oui, c'est vrai. Mais le son, hein? Louer l'Éternel. Le dernier psaume nous en parle des instruments de musique, hein? Alors, je vous invite à tourner avec moi dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Verset 1. J'ai décidé de commencer l'introduction de notre petit livre âgé. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu dedans, ça fait plusieurs semaines, et je me disais à moi-même, OK, c'est bien beau de connaître les dates, les noms, mais pourquoi on étudie âgé? Pourquoi? Et je crois que la parole de Dieu répond à cette question. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sur la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. » En passant, le terme « baptisé en Moïse » parle d'identification avec Moïse. Dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la manne, et la présence de Dieu, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils s'abreuvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'il périt dans le désert. Ouais. Ceux qui ont été à l'école du dimanche, on sait que combien de personnes ont sorti du désert vivant? Deux. N'est-ce pas? C'est qui a sorti? Deux personnes ont sorti. Vous vous posez la question, pourquoi étudier l'Ancien Testament? Pourquoi regarder âgé de près? Eh bien, voilà la réponse au verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas les mêmes désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et lorsqu'on arrive dans nos quatre messages d'âgé, il y a quelque chose à apprendre pour nous en 2014. On est là pour observer ce qui arrive. Et on fait la différence entre Israël et l'Église. Et on est là pour voir, en fin de compte, ces personnages de cet événement. On a l'autorité spirituelle qui est là. On a aussi l'autorité politique, d'un certain sens. On a le peuple de Dieu qui est là. Et Dieu qui est bienveillant envers son peuple. Et on parle de la maison de Dieu. Et vous savez, comme moi, que David, dans 2 Samuel 7:2, son rêve, il est là, puis il se dit, « Hey, moi, j'habite dans un beau palais, puis Dieu est dans une tente. Le tabernacle est dans une tente. Et moi, je suis dans une maison. » Puis il a voulu construire la maison de Dieu, le temple. Étant un homme de saint, Dieu a dit, « Non, ce n'est pas toi qui vas construire le temple, mais David a préparé les objets pour que son fils Salomon, lui, prennent la relève et construisent le temple. Et ce temple était la place où ce que Dieu rencontrait Israël. Il y avait des souverains sacrificateurs, il y avait des gens qui avaient le droit de rentrer dans le lieu très saint. On l'attachait avec une corde, le souverain sacrificateur, en cas qu'il tombe mort là. Puis s'il tombe mort là, on tire sa corde et on le sort. Tout était prévu. On va dans l'histoire, puis on voit que ce temple-là est détruit. Et nous sommes dans cette époque de ce petit prophète Agée et d'autres prophètes, comme qu'on a vu dans Esdras, Néhémie, Zorobabel, Zacharie. Et à quelque part, il y a un relâchement. La maison de Dieu devient secondaire. C'est plus si important que ça. Et là, Dieu envoie un prophète, Agée. Il y a 4 messages. Et ce même temple, à fin de compte, qui va être reconstruit, va un jour être détruit complètement. Il ne restera pas pierre sur pierre. Titus, en 70, va le détruire. Où est le temple? Et nous, on a le privilège, en 2014, de savoir qu'un jour, il va y avoir une nouvelle Jérusalem. La présence de Dieu, créant un nouveau ciel, une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem qui descend des cieux, où ce que Dieu habite. Et la lumière, c'est Dieu qui nous éclaire, plus besoin de soleil. Quelle belle histoire, n'est-ce pas? Et dans cette histoire, nous rentrons dans cette histoire comme une parenthèse. Nous qui sommes les temples de l'Esprit-Saint, dans cette période de l'Église où un jour, comme du temps de Noé, l'ère de grâce va se terminer et le retour du Seigneur vient nous chercher, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous, les vivants, nous allons les rejoindre dans les airs pour être pour toujours avec le Seigneur. Quelle belle histoire! En attendant, nous qui sommes le temple de Dieu, nous qui sommes ensemble l'Ecclésia, c'est-à-dire appelés hors du monde pour être les messagers de la grâce, annoncer l'Évangile à ceux qui nous entourent dans nos contemporains. Vous savez, lorsqu'on observe ces prophètes de l'Ancien Testament, ces hommes et femmes de l'Ancien Testament, on constate une chose. On constate qu'ils ont une même nature que nous. On en voit ceux qui obéissent et on voit ceux qui désobéissent. Et toutes les relations humaines que nous connaissons, eux les connaissent aussi. Alors, ce qui arrive là nous sert d'exemple. Si on ne reconnaît pas ce qui s'est passé dans l'histoire, on est condamné à la répéter avec ses erreurs. Donc, je vous invite au chapitre 2 d'Agée et on va lire les 9 versets rapidement et aller chercher dans ce petit livre des exemples qui vont nous aider, nous, en 2014, à persévérer, à ne pas se relâcher et connaître mieux notre Dieu. Chapitre 2, verset 1, là. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de la Judée, et Josué, fils de Jotsadak, le serviteur, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. Et dis-leur, verset 3, quel excusez. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans la gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Bonne question. Telle qu'elle est, telle qu'elle est. Comment voulez-vous, la voyez-vous maintenant telle qu'elle est? N'apparaît-elle pas comme un rien à vos yeux? Parce que si tu compares les ruines à ce que c'était dans le temps de Salomon, wow! Fortifie-toi, Josué, fils de Josadac, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîmes d'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. L'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Ici se termine la lecture de Agée 2, 1 à 9. J'ai pris une stratégie de bienveillance pour apporter ce que j'ai à partager avec vous. C'est-à-dire, la bienveillance, c'est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur des autres, c'est-à-dire de l'Église, d'Israël. Dieu est bienveillant envers son peuple d'Israël, même de nos jours. Il est bienveillant envers son Église, c'est dans les attributs de Dieu, un Dieu qui est bienveillant, il nous veut toujours du bien dans sa volonté. Dieu n'est pas tenté par le mal, Dieu ne produit pas le mal, Dieu nous veut du bien lorsqu'on souffre, Dieu nous veut du bien lorsqu'on avance avec lui dans son œuvre, Dieu veut du bien à Israël. Et Agée va arriver à fin de compte avec des messages. Il y a premièrement les reproches, le relâchement, ça qu'on l'a vu déjà. Il y a ce qu'on va voir aujourd'hui, la bienveillance et l'encouragement. Ensuite, on va voir la bénédiction. Ensuite, on va avoir l'espoir. Voyez-vous, je voulais vous montrer ça rapidement pour que vous compreniez que c'est merveilleux ce qu'on a dans ce petit livre-là. C'est une manière, en fin de compte, c'est une stratégie de bienveillance envers son peuple qui se relâche. Dieu n'abandonne pas son peuple, il est fidèle. Dieu n'abandonne pas son Église, il est fidèle. Et ce matin, je vais mettre l'emphase sur le deuxième message, qui est un message, à fin de compte, extraordinaire, qui nous encourage, qui encourage Israël à ne pas lâcher. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu est attentif. Dieu est attentif à ce qu'Israël est en train de vivre. Israël se relâche. Ils ont abandonné la construction du temple et ça passe en dernier dans leurs priorités, ou presque. Et là, Dieu envoie des hommes, un homme pour nous, c'est Agée ce matin, et Dieu fait cela afin de reprocher à Israël sa mollesse, reprocher à Israël ses mauvaises priorités, reprocher à Israël le fait qu'il a abandonné la construction de la maison de Dieu. Et j'aimerais vous dire que lorsqu'on regarde cela, il faut savoir que Dieu est présent et attentif et actif, c'est-à-dire dans nos vies. Dieu voit ce qui se passe sur la planète Terre, il voyait ce qui se passait avec Israël, et Dieu intervient. D'ailleurs, tout l'Ancien Testament est un peu comme cela, en dents de scie. Dieu envoie des prophètes pour parler, Dieu envoie des gens qu'il a suscité ici et là pour parler de sa part et pour rectifier le peuple d'Israël dans la bonne direction, toujours. J'aimerais vous dire, dans la nature de la bienveillance de Dieu, aujourd'hui pour l'Église, Dieu fait encore tout cela. Dieu fait tout cela. Dieu nous regarde et Dieu est assez franc avec nous. Dieu est assez correct avec nous que Dieu nous dit la vérité en pleine face. On ne veut peut-être pas l'accepter tout le temps, mais lorsque Dieu manifeste sa bienveillance envers nous, ça commence comment? Par le fait qu'il est actif dans nos vies, il est actif dans notre Église, il est actif dans notre Assemblée, il est actif parmi son peuple pour corriger la trajectoire lorsqu'il le faut. Il l'a fait pour Israël, puis il le fait aussi pour l'Église. Et Dieu intervient. Et ça commence par l'avertissement. Et c'est pour cela, en fin de compte, que ça s'adresse aux leaders, premièrement. Ça s'adresse aux leaders spirituels, Zerubbabel, le leader spirituel. Ça s'adresse à tous les leaders politiques, les premiers entre le peuple d'Israël. Ces leaders de la nation d'Israël, Dieu leur dit, écoutez bien, je vous envoie un prophète pour vous dire ce qui fonctionne plus, ce qui fonctionne pas, et mettre sur la table la vérité. Il parle au peuple. Donc, Dieu parle à tout Israël par rapport à la situation. Est-ce qu'Israël veut écouter? J'espère que oui. Est-ce qu'Israël a écouté? Quelques-uns ont écouté. Et vous savez, lorsque Dieu parle à son Église, lorsque Dieu nous parle dans nos vies, c'est la même chose. Dieu est actif et présent dans nos vies et il nous parle. Et des fois, il va nous dire des choses qu'on n'aime pas entendre. Mais on est des experts pour raisonner avec Dieu, bien des fois, et on fait une virgule puis on met un « mais » ou un « par contre ». Et on essaie d'expliquer la situation. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que Dieu dit « fortifie-toi », c'est-à-dire « prends courage, vous qui bâtissez la maison de Dieu, lâchez pas, il y a des obstacles, on l'a vu dans Néhémie, quand on a vu Esdras, Néhémie et tout cela, on voit dans les autres prophètes tout l'obstacle qu'il y a, et à quelque part, Dieu dit, vous vous êtes relâchés, mais moi je vous dis par la bouche de mon prophète Israël, lâchez pas, bâtissez. Je suis avec vous. Et voilà. Israël, est-ce qu'Israël croyait que l'Éternel était avec eux? Moi je croyais qu'Israël avait oublié Dieu. Dieu t'a rendu l'option Z. Est-ce que ça se peut que dans l'Église aujourd'hui, qu'on dise que Dieu ne s'occupe plus de nous autres? Est-ce que ça se peut qu'on pense dans nos vies que Dieu est tellement occupé en Chine, en Afrique, qu'il n'est plus dans la Mauricie? Est-ce que ça se peut qu'on dise que Dieu n'est pas vraiment avec nous? On voit une circonstance, on analyse certaines choses, on analyse certaines choses, et puis notre conclusion, Dieu ne nous bénit pas, Dieu n'est pas soucieux de ce qu'on vit. C'est absolument faux. Israël, dans la désobéissance, dans le relâchement, Israël, le fait qu'il avait abandonné la maison de l'Éternel, Dieu intervient, il est actif dans son peuple, il est présent dans son peuple pour nous encourager, pour nous aider à marcher devant et donner de gloire à Dieu. Dieu nous rappelle qu'il veut nous bénir, il est avec nous, il veut nous fortifier, parce que c'est un Dieu qui est bienveillant envers son peuple. Israël, et c'est un Dieu qui est bienveillant envers son Église. La troisième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que Dieu reste fidèle. Même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut pas renier le nom qu'il a mis en nous. Vous savez, j'ai lu dernièrement justement un témoignage d'un homme qui disait, « Je suis le fils d'un tel monsieur, très, très populaire aux États-Unis. » Il dit, « Partout où je vais, le monde m'associe à mon père. Pourtant, je ne suis pas mon père. Je suis un être à part de mon père. Alors, il faut savoir ici, tel père, tel fils. Il faut savoir que Dieu reste fidèle, même si nous ne sommes pas fidèles. Et tout ce que le fils fait par rapport à son père dans le témoignage, ça nuisait à la réputation de son père. Et là, il voulait justifier les affaires. Puis dire, c'est pas mon père qui a fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Mon père n'a pas d'affaire dans ça. Voyez-vous, à quelque part, on est identifié. Dieu est fidèle, même si on n'est pas fidèle. Même si quelquefois, on a déçu le Seigneur dans certaines décisions qu'on a prises, certains langages qu'on avait. À quelque part, Dieu reste fidèle. C'est dans sa nature. Dieu ne change pas. On l'a vu tout à l'heure, notre frère nous l'a cité, Dieu est le même hier, hein? Hier, aujourd'hui, éternellement, Dieu est le même. Il n'y a pas l'ombre d'une variation en Dieu. Dieu ne change pas d'idée. Dieu a des idées. Dieu sait ce qui s'en va avec la planète Terre, il sait ce qui s'en va avec Israël, puis il sait ce qui s'en va avec l'Église. Alors, lorsque Agée dit à ce peuple-là qu'il a relâché, ce peuple qui ne bâtit plus la maison de l'Éternel, ce peuple qui a d'autres priorités, il va leur dire, écoutez, je suis avec vous, je suis actif parmi vous, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vos pères, je reste fidèle à mes promesses, car je vous ai choisi, non pas parce que vous êtes le meilleur des peuples, que Dieu dit à Israël, non pas que vous êtes les plus fins, les plus forts, les plus intelligents, je vous ai choisi parce que je vous aime, Israël. Dieu reste fidèle à son alliance. De même que pour l'Église, Dieu reste fidèle à son Église qui a payé de son sang précieux. Dieu aime l'Église. Il aime chaque enfant de Dieu qui fait partie de cette Église, nous qui sommes les temples du Saint-Esprit aujourd'hui, nous qui avons le privilège d'être cette parenthèse de l'Église sous la grâce. Il va dire aussi, hein, « Mon alliance, mon esprit est avec vous. » Ce que j'ai dit, croyez-le. J'abandonne pas. Je suis avec vous. Vous savez, quand le peuple d'Israël a sorti d'Égypte, il y a les fameux « je te délivrerai. Je t'accompagnerai. Je t'accompagnerai dans le désert. Je te nourrirai. Je ferai de toi une nation. » Je. Toujours Dieu. Dieu nous rappelle, peu importe ce qu'on vit, comme Église, que Dieu est là et fidèle. Il est fidèle à sa parole et c'est pour cela que nous devons comprendre cette parole et comprendre les paroles de Dieu. Mon alliance est là, mon esprit est avec vous et Dieu est fidèle. Quatrièmement, on a la puissance et la richesse de Dieu. La puissance et la richesse de Dieu. Agée rappelle à Israël une chose. Il lui dit en fin de compte, pensez-vous que je n'ai pas d'argent? Pensez-vous que je ne suis pas riche? Que je ne suis pas puissant? Voyons donc. Mettez votre foi en moi. Marchez par la foi. Croyez mes promesses. Croyez mon alliance. La puissance et la richesse de Dieu, c'est quelque chose qui est merveilleux. Tout l'or lui appartient. Toute puissance lui appartient. Il rappelle à Israël, en fin de compte, qui il est. Combien de fois le Seigneur a besoin de nous rappeler, nous l'Église, comment il est. Il est puissant. Il est riche. Ce matin, quand Fernand parlait de l'offrande, le privilège de participer à l'œuvre de Dieu, donnant de l'argent, moi, j'étais dans un autre livre, dans Chronique, et David, lorsqu'il priait, puis il disait, « Ce qu'on te donne, c'est ce qu'on a reçu de toi. » Voyez-vous, vous pouvez avoir des meilleures objections en mathématiques. Mais à quelque part, on a affaire à celui qui a tout, qui a toute puissance, qui a toute richesse. Puis Israël avait oublié cela. Il regardait le temple et il disait, « Ah, c'est bien trop énorme, ça coûte bien trop cher. » Ça me fait penser à bien des affaires, ça. Trop cher. Même, je pourrais vous dire, la viande est rendue chère à l'épicerie. Hein? Ça a tout monté. Hein? Là, on dit c'est l'essence, là, on dit c'est d'autres choses. La gasoline monte. Tout monte. Avez-vous déjà vécu un an sur la planète Terre sans que rien ait monté? Tout monte. Et pensez-vous que c'est nous, en 2014, qui avons inventé cette perception que les choses coûtent cher? Ça coûtait cher dans ce temps-là. Ça coûtait toujours cher. Et des fois, ça coûtait leur vie. Et Dieu leur rappelle qu'il est. Il est puissant, il est grand, et on a un Dieu qui n'est pas limité par nos perceptions. C'est l'Éternel des armées. Il a un plan, il possède un plan pour sa création. Savoir que Dieu n'est pas dépassé par n'importe quel événement, n'importe quelle tragédie, comme qu'on a vu cette semaine. Pensez-vous qu'on doit se renfermer dans notre maison parce qu'il est arrivé ces choses cette semaine? Dieu est en contrôle. Toutes les nations, toute la planète entière, d'où est-ce que s'en va? Dieu est en contrôle. Même Satan joue dans ses mains. Dieu est souverain. Et un jour, le propriétaire de la planète Terre va venir puis il va fermer la boutique. C'est ce qui va arriver. Dieu est puissant. Et agir rappelle à Israël. Israël, avez-vous oublié qui je suis? Avez-vous oublié que je suis puissant? Avez-vous oublié que je suis riche? Avez-vous oublié que je suis fidèle? Avez-vous oublié que je suis actif? Avez-vous oublié que j'ai de la bienveillance envers vous, Israël? À l'Assemblée du Cap de la Madeleine, est-ce qu'on a oublié ça? Que Dieu est bienveillant envers nous? Que Dieu est actif parmi nous? Avons-nous oublié que Dieu est fidèle? Avons-nous oublié que Dieu est puissant et riche? Est-ce qu'on a oublié ces choses-là? Et c'est exactement ce qu'Agé dit à son peuple. Vous avez oublié ça, Israël? La preuve, c'est que vous êtes dans vos maisons en train de vous construire des palais, puis la maison de l'Éternel est négligée. Moi, je m'identifie très, très bien avec Israël. Très bien. Que c'est donc facile de penser juste à nous autres? L'individualisme. Les causes communes sont de moins en moins populaires dans le Québec. On a besoin de se rappeler qu'on est tous sous le parapluie de l'autorité de Dieu. On a un Père céleste qui est rempli de miséricorde, de compassion. Un Père céleste bienveillant envers nous. Un Père céleste qui est actif. Un Père céleste qui est fidèle. Un Père céleste qui est riche. Puis puissant. Qu'il est bon de se rappeler qui est notre Dieu. Et le cinquième, pour terminer, c'est la gloire de Dieu est attachée à la paix. Et c'est assez intéressant que, et là je ne ferai pas toute l'historique, on n'aura pas le temps, il est moins quart, mais la gloire de Dieu. Agé va donner une perception. Dans l'Ancien Testament, les prophètes regardent puis ils voient. Ils ne voient pas l'Église, qui est une parenthèse un peu cachée comme des montagnes. Et là, il voit l'autre montagne, il voit le millénium, il voit la présence de Dieu sur la terre, cette paix de 1000 ans. Il voit nouveau ciel, nouvelle terre, il voit la présence de Dieu dans l'humanité. Et à quelque part, là où ce que Dieu amène la paix, Israël, la conversion nationale d'Israël, Romains 9, 10 et 11, Zacharie en parle, et les prophètes en parlent. Ce temps où ce que Dieu met la paix sur la terre. Et ce millénium, c'est cette époque où nous allons parce que nous allons être enlevés avant, nous allons être avec le Seigneur. Mais ce principe que j'aimerais partager avec vous, la paix et la gloire. On ne peut pas être un déshonneur pour Dieu et dire on est en paix. Il faut glorifier Dieu dans toutes nos actions et vivre la paix. C'est-à-dire la paix de Dieu, premièrement. C'est que nous qui sommes chrétiens, on sait très bien que si on peut se présenter devant le Père céleste, c'est parce qu'on est en paix avec lui à cause de Jésus-Christ qu'on a vu ce matin. Nous sommes déclarés justes par le Père parce qu'il nous voit au travers du sang de son Fils. Et le Père nous dit, voici la paix avec moi est faite. Jésus, la victime propitiatoire, nous a rendus propices à Dieu par son sang précieux qui a été versé. Donc, on se présente devant Dieu et on glorifie Dieu. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Israël, comme l'Église, doit se poser la question, mes actions, mes priorités, est-ce qu'ils glorifient Dieu? Est-ce qu'ils démontrent que la paix de Dieu est en moi et ma marche chrétienne fonctionne dans la paix? La main tendue, la joue enflée. La paix de Dieu est attachée à la gloire de Dieu. Ce n'est pas les chicanes, les guerres, la destruction l'un l'autre. La parole nous avertit, Galates 5,15 nous dit, si vous vous mordez les uns les autres, vous allez vous détruire les uns les autres. Dieu est un Dieu qui veut être glorifié par Israël. Il veut être glorifié par Israël. Donc, plus grand, je donnerai la paix. Il est le plus grand, c'est lui qui donne la paix. Beaucoup de gens essaient d'avoir la paix sur la planète Terre présentement. Beaucoup. On sait que l'Antichrist va faire une fausse paix pendant 3 ans et demi. Mais celui qui va mettre une paix réelle, c'est Christ. Lorsqu'on regarde l'Église, et je fais exprès tout au long de faire une différence entre l'Église et Israël, lorsqu'on regarde l'Église, on sait qui est le prince de paix. Et la bonne question à se poser, est-ce que nous glorifions le prince de paix par nos actions, nos paroles, nos priorités? Vous savez, il y a une grosse différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Les démons croient en Dieu puis ils tremblent. Mais croire Dieu veut dire je crois ce que Dieu dit. Donc, je termine rapidement avec 5 questions pour résumer. Voyons-nous la situation comme Dieu? Voyons-nous la situation comme Dieu? Israël ne voyait pas la situation comme Dieu la voyait. Puis il est intervenu. Est-ce qu'on donne la permission à Dieu dans notre Église, dans notre Assemblée, d'intervenir pour qu'on puisse voir la situation qu'on est en train de vivre comme Dieu la voit? J'espère que oui. S'humilier sous la puissante main de Dieu. Sommes-nous encouragés, nous les bâtisseurs du royaume de Dieu? On est dans une mission avec une bonne nouvelle pour ceux qui nous entourent. On est dans une mission et Dieu nous encourage à ne pas se relâcher parce qu'il revient bientôt. Troisième, sommes-nous fortifiés par la présence de Dieu? Est-ce que le fait de savoir que Dieu est parmi nous, il y a un petit quelque chose qui se passe dans Béden? Dieu est ici. Dieu est en nous, il est parmi nous. Est-ce qu'on jouit de cela? On l'exprime de plusieurs manières, par des chants, la louange, les prières, l'adoration collective et individuelle. Quatrièmement, croyons-nous à la puissance de Dieu? Vous avez peut-être devant vos yeux des objectifs, mais savez-vous quoi? Le vrai problème, c'est que vous ayez l'objectif que Dieu a, et non pas l'objectif que mon cœur a, qui pense que c'est le meilleur. À quelque part, il faut décider de suivre le plan de Dieu. Israël ne suivait plus le plan de Dieu. Dieu a fait en sorte d'envoyer Agé pour les ramener sous la main bénissante de Dieu. Croyons-nous à la puissance de Dieu. On a des projets, on fait des choses. Moi, je crois à la puissance de Dieu, et vous croyez aussi à la puissance de Dieu dans nos projets. Mais la vraie question, c'est que mon projet est-il dans la volonté de Dieu? Mon projet est-il le projet de Dieu? Ce n'est pas mon projet, c'est le projet de Dieu. Ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de Dieu. Voyez-vous, on est tous des administrateurs pour Dieu. Cinquièmement, la gloire de Dieu est attachée à la paix encore. J'avais suivi en 1999 un cours qui s'appelait Peacemaker Ministry, ministère de paix, qui est en français aujourd'hui, qui était traduit. Puis il disait, si tous les chrétiens pouvaient se poser la question avant d'agir ou de parler, est-ce que mon action glorifie le Seigneur? Pensons-y. Est-ce que mon action glorifie le Seigneur? Est-ce que le Seigneur va être glorifié par quoi je vais dire? Est-ce que le Seigneur va être glorifié par qu'est-ce que nous allons faire? C'est ça la vraie question. Le Seigneur a un plan pour l'univers. Toute sa création. Dieu, il y a un plan pour Israël. Dieu, il y a un plan pour son Église. Dieu, il y a un plan pour l'Assemblée chrétienne du Cap-de-la-Madeleine. Et Dieu, il y a un plan pour chacun de nos vies. Mais soyons à l'écoute de Dieu. Suivons le Prince de paix. Et marchons pour sa gloire. Je vous invite, pour terminer, j'ai un beau chant. J'aimerais qu'on chante ensemble, qui est une prière. Qui renoue avec cette certitude qu'on connaît notre Dieu. Puis, lorsqu'on va le chanter, j'aimerais vous exhorter et vous encourager à vraiment réaliser qui est Dieu dans nos projets. Comme Israël, on va être tenté à désobéir. Comme Israël, on va être tenté à négliger. Comme Israël, on va oublier la gloire de Dieu dans tous nos projets. Alors, on va chanter ensemble « Dieu fidèle, tu ne changes pas ». Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, « Michel, quand on se lève, on est mal debout, puis on a envie de tomber à terre. Sentez-vous libre de rester assis, ça fait pareil. Ce qui est important, c'est notre cœur, n'est-ce pas? » Alors, nos musiciens vont nous accompagner. Puis, voyez pas ça comme un chant dans le sens, « Oh, la musique, je capote là-dessus, comme moi j'ai fait là. » Mais pensons aux paroles, accompagnées. Pour moi, la musique, là, c'est un plateau d'or qui apporte des paroles au Seigneur. Et réfléchissons comme il faut ce qu'on dit. Remercions Dieu pour sa fidélité et marchons pour sa gloire. On y va, les frères? Oui.
Tu es fidèle, tu
Seigneur Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Tu es un Dieu miséricordieux, lent à colère, riche en bonté, un Dieu bienveillant sur ton peuple Israël, sur ton Église. Et Seigneur Dieu, nous nous tournons devant toi, nous reconnaissons ta puissance, nous reconnaissons ta richesse, nous reconnaissons que tu es actif parmi ton Église, comme tu es actif parmi Israël. Et tu es fidèle, Seigneur. Même si nous sommes infidèles, tu demeures fidèle parce que tu ne peux pas renier le nom que tu as mis en nous. Seigneur, on est tes enfants. On a besoin d'apprendre ensemble, Seigneur, en sorte qu'on puisse te glorifier, Seigneur Dieu, et que tu puisses, Seigneur Dieu, nous aider, chacun de nous, comme assemblée, à marcher en paix afin que tu sois glorifié dans tout ce que nous allons entreprendre. On remet notre vie, notre assemblée entre tes mains, Seigneur Jésus, et sépare-nous avec ta bénédiction. Amen. Amen.